Je vous observe depuis 30 secondes et j'ai l'impression, comment dire, que vous êtes perdu, désorienté. Mais avez-vous le mot de passe? Ce mot qui ne s'adresse qu'aux initiés, un mot-clé pour ouvrir les portes de l'invisible. Non, pas un mot pour rire, ni un gros mot. Pas le mot de la fin non plus, mais plutôt celui du commencement d'un voyage. Mot valise, où les chemins se croisent, mot croisé, mot à mot, à demi-mot. Mais surtout, ne pas mâcher ces mots pour affronter l'inconnu. Jouer sur les mots pour s'égarer dans les méandres de l'imaginaire. N'être sûr de rien pour ne pas avoir le dernier mot. Se passer le mot pour partager le présent. Bon, je vais vous aider. C'est un mot en trois lettres, ou plus exactement, fabriqué avec deux lettres. Le nom d'un affluent du Rhin qui a façonné l'étymologie de nombreux bourgs en Alsace et qui est probablement à l'origine du nom de la région. Que dites-vous? Oui, c'est cela. Il, I, deux L. Approchons-nous de la rambarde métallique qui nous sépare de la rivière. Les eaux de l'île qui coulent en contrebas, rejointes par celles de la Bruche avant de franchir les 13 arcades du barrage Vauban, ont parcouru environ 190 km depuis leur source, dans le Jura alsacien, pour parvenir jusqu'à nous. Elles se divisent ensuite en 4 canaux, irriguent Strasbourg, avant de se jeter un peu plus loin dans le Rhin, qui se jettera encore plus loin dans la mer du Nord, qui se jettera enfin contre des côtes allemandes ou scandinaves. Penchons un peu, notre regard peut embrasser quatre tours sentinelles alignées qui délimitent le quartier de la Petite France. Ce quartier ne fut pas jadis la coquette carte postale qu'on peut admirer aujourd'hui. Il était pauvre, peuplé de meuniers, pêcheurs, tanneurs, prostituées et autres bourreaux, avec ses maisons en pans de bois. Il doit son nom, Petite France, à l'implantation d'un hospice qui accueillait les personnes atteintes de syphilis, alors appelé le mal français. Cette maladie fut rapportée par les lansquenets du roi Charles VIII, mercenaires qui écumaient les guerres en Europe et qui étaient réputés pour leur efficacité et leur brutalité. Quatre tours carrées donc. À gauche, l'austère tour du bourreau, puis, à droite, une place vacante laissée par la Malzenturm, détruite vers 1869. Puis, la Heinrichturm, qui fut prison civile. Et enfin, les Hans von Altenheim-Turm et Tour des Français, servant un temps de prison militaire. Ces vigies sont encore reliées par des ponts naguère couverts de toits en bois. Ce dispositif était censé protéger ce front vulnérable de la cité. C'était sans compter le sens aigu de destruction du genre humain et les fulgurants progrès qu'il fit dans le domaine de l'artillerie. On décida donc en 1681 d'ériger, sous le règne de Louis XIV, un pont écluse quelques mètres en amont, une fortification censée répondre aux nouvelles contraintes militaires. Mais cette grande écluse, appelée aujourd'hui barrage Vauban, construite sur les plans du marquis du même nom, n'empêchera pas la reddition de Strasbourg lors du siège prussien de 1870. Se rajoutait à la fonction défensive de cet ouvrage celle d'entrepôt. Un magasin à farine, situé à l'étage et dans les combles, donnait à cet édifice le nom poétique d'écluse aux farines. Les autorités allemandes vont y rajouter un étage. Beaucoup d'eau va passer sous ces arches avant que la ville n'aménage en 1966 une terrasse panoramique pour se rapprocher des nuages.
Celui qui veut abattre un nuage avec des flèches épuisera en vain ces flèches. Beaucoup de sculpteurs ressemblent à ces étranges chasseurs. Voici ce qu'il faut faire. On charme le nuage d'un air de violon sur un tambour, ou d'un air de tambour sur un violon. Alors, il n'y a pas long que le nuage descende, qu'il se prélasse de bonheur par terre, et qu'enfin, rempli de complaisance, il se pétrifie. C'est ainsi qu'en un tournement, le sculpteur réalise la plus belle des sculptures.
Hans-Jean Harp, profession sculpteur de nuages, mais aussi poète, peintre, artiste éponyme de la place qui s'étend derrière nous. Arpentons son territoire, aventurons-nous dans l'infini.
Il faut d'abord laisser pousser les formes, les couleurs, les mots, les tons, et ensuite les expliquer. Il faut d'abord laisser pousser les jambes, les ailes, les mains, et ensuite les laisser voler, chanter, se former, se manifester. Je ne fais pas, moi, d'abord un plan comme s'il s'agissait d'un horaire, d'un calcul ou d'une guerre. L'art des étoiles, des fleurs, des formes, des couleurs appartient à l'infini.
Suivez-moi si vous le voulez bien. Foulons au hasard les pavés de cette place. Les odeurs des étals de poissonniers et de marchands de quatre saisons installés tous les mercredis et vendredis, jour de marché, peuvent encore se faire sentir. Au milieu d'une constellation de signes apposés aux différents poteaux qui ponctuent l'espace, comme ce discret losange marqué au fer bleu par le club vosgien, indiquant le passage du sentier de l'île sur ce plateau granitique. Des panneaux d'information ou d'orientation, des affichettes collées à la sauvette délavée par le temps. Il en est un de signes qui force l'attention. Le voyez-vous, juché là, à bonne hauteur, en bordure d'une triste copie d'amphithéâtre grec. Trois panneaux, sur chacun desquels on peut voir quatre flèches vertes placées aux quatre coins et encerclant un groupe de trois silhouettes stylisées. En dessous des trois panneaux, trois mots laconiques, point de rassemblement. Serait-ce des signes occultes, une expression ésotérique nous enjoignant de réunir nos forces, de concentrer nos sentiments, de masser en ces lieux nos émotions, d'unir nos imaginaires? À moins que ce ne soit qu'une consigne administrative qui indiquerait un lieu de regroupement en cas d'évacuation d'urgence d'un bâtiment public. Le mystère reste entier. Bon, rassemblons nos pensées et poursuivons nos pérégrinations en jetant notre dévolu sur l'ensemble architectural de la commanderie Saint-Jean, qui se situe devant ces énigmatiques écriteaux. Ce couvent du XIIIe siècle devient au XVe un haut lieu de la mystique rhénane. L'ensemble, alors à l'écart de la ville, est constitué d'une église, d'une grange, d'écuries et de logements. Un petit hôpital est érigé en 1520 pour les syphilitiques. Après une guerre de 30 ans, une révolution, la ville prend possession du terrain et de ce qu'il reste de la commanderie pour en faire une maison de force et de correction. La prison Sainte-Marguerite servira jusqu'au début des années 1980. Les femmes y sont incarcérées jusqu'en 1945. Une téméraire volonté de décentralisation en 1993 pousse les apprentis hauts fonctionnaires de l'École nationale d'administration, CISE à Paris, à un exil forcé dans la capitale alsacienne. Les futurs énarques investissent donc les bâtiments de l'ancienne prison avant d'être relâchés pour affronter les vicissitudes administratives de la vie et tenter d'apporter des solutions à leurs concitoyens. Les bâtiments ont été rénovés et adaptés à leurs nouvelles fonctions. Devant vous, ce volume de verre dépoli qui s'insère dans l'ensemble est l'auditorium Michel Debré. Les changements de vocation d'un lieu dans l'histoire offrent parfois de truculentes relations qui n'auraient pas déplu à Hans-Jean Harp et ses amis dada.
Je suis né à Strasbourg. J'ai publié 5 livres de poèmes. En 1916 à Zurich, Dada est né dans la joie. Dada est pour le sans-sens, ce qui n'est pas le non-sens. Dada est sans sens comme la nature et la vie. Dada est pour la nature et contre l'art, comme la nature dada veut donner à chaque chose sa place essentielle. En outre, je m'adonne tantôt assis, tantôt debout, à la sculpture. Personne ne peut me prouver que j'ai jamais modelé une nymphe, un général ou un aigle.
Maintenant, retournez-vous et imaginez qu'à la place de cette monumentale nef transparente de 109 mètres de long, située légèrement à notre droite, qu'à la place de ces 5000 mètres carrés dédiés à l'art moderne et contemporain, se dressaient en 1860 les abattoirs municipaux construits sur l'ancien jardin du couvent Sainte-Marguerite. Durement touchés lors d'un bombardement en 1944, les abattoirs vont être démolis en 1969. Le tout-voiture des années 70 ne pouvait qu'imaginer à sa place une gare routière, un parking, puis un marché sous abri. Le temple des Muses, imaginé par l'architecte Adrien Feinsbilder, fait la part belle à quelques enfants du pays, comme le peintre et illustrateur Gustave Doré, sans doute fier que son Christ quittant le prétoire, monumentale peinture tout droit sortie d'un sublime péplum, est sa propre salle. Quant à l'iconoclaste Hans-Jean Harp, lui et ses amis ont laissé de nombreuses traces de rêves ici et là. Il suffit de fermer les paupières.
Je me laisse mener par l'œuvre en train de naître. Je lui fais confiance. Je ne réfléchis pas. Les formes viennent. Avenant ou étrange, hostile, inexplicable, muettes ou ensommeillées, elles naissent d'elles-mêmes. Il me semble que je ne fais pour moi que déplacer mes mains. Ces clartés, ces ombres que le hasard nous envoie, nous devrions les accueillir avec étonnement et reconnaissance. Le hasard, par exemple, qui guide nos doigts lorsque nous déchirons du papier. Les figures qui apparaissent alors nous donnent accès à des mystères, nous révèlent les cheminements profonds de la vie. Le sujet doit se présenter à l'artiste sur la pointe des pieds, sans chercher à en imposer. Il doit se faire aussi léger que la trace d'un animal dans la neige. L'art doit se perdre dans la nature. Il faut même qu'on le confonde avec elle. Seulement, ce n'est pas par l'imitation qu'il faut essayer d'y parvenir, mais par le contraire même de la reproduction naturaliste des formes sur la toile ou dans la pierre. Ce faisant, l'art se débarrasse toujours plus du narcissisme, de la virtuosité, du ridicule. Il suffit de fermer les paupières et le rythme intérieur passe dans la main avec plus de pureté. Ce passage, ce flux est encore plus facile à contrôler, à guider dans une pièce obscure. Le grand artiste de l'âge de pierre savait conduire les mille voix qui chantaient en lui. Il dessinait ainsi, le regard tourné vers l'intérieur. Ainsi, le dessin perd toute opacité. Ainsi, les harmoniques, la pulsation, les retours, la métaphore de la mélodie intérieure se fondent dans le rythme d'un souffle profond.
Traversons la place Arp et approchons-nous davantage du musée. Pour ses 20 ans, l'institution s'est offert un partiel ravalement de façades éphémères en noir et blanc. D'immenses pages de comic strips du collectif new-yorkais Fail s'étale sur les différentes surfaces qu'offre l'entrée du bâtiment. Un synopsis poétique inspiré de la ville organise la mise en page de textes en anglais écrits avec des caractères d'affiche et les dessins des personnages dignes des super-héros de Marvel. Dans un coin, on peut lire « On rooftops, out of reach ». I listen to the whispers of the city, wanted by the devil's whirling winds. Il s'agit bien sûr de ces légendaires vents de la place de la cathédrale, chevauchés par le diable et qui tourbillonnent continuellement en attendant que Satan, enfermé à l'intérieur du lieu saint, puisse enfin en sortir.
Enfin, je puis quitter ce pays plein de bruit. D'innombrables fouets claquent, parfois seuls, parfois tous ensemble. Ils claquent jour et nuit. Un vent furieux souffle sans cesse et fait battre la grandiloquence des drapeaux et des fanions du pays qui portent des crécelles. À tout cela s'ajoute encore l'étrange habitude de faire éclater constamment d'énormes sacs gonflés d'air à craquer. Avec des borborygmes incongrus, le vent se décharge des sacs qui se déchirent en chiffon. Comment suis-je donc venu dans ce pays niais, tapageur ? Je franchis la frontière accompagné de chants stupides, déclamatoires. Je cours. Enfin, je pénètre dans le loin, dans l'insonore bleu des nostalgies.
Cette place minérale peut se vanter d'avoir de nombreux bancs, espèces en voie de disparition dans l'espace public. C'est donc une place où l'on peut s'asseoir pour écouter la vie s'écouler, ou bien rêver. Choisissez votre banc et installons-nous confortablement.
L'homme qui rêve est capable de faire danser des œufs gros comme des maisons ou de mettre en gerbe des éclairs. Il sait aussi comment s'y prendre pour faire tenir en l'air, au-dessus d'une pauvre petite table branlante qui a l'air d'une chèvre momifiée, une grande montagne qui rêve, elle, d'un nombril et de deux ancres de navire.
En fin d'après-midi, durant la semaine, la place se transforme en spot de skateboard. Le week-end, les touristes se mêlent aux arabesques des engins à roulettes.
Lion de nuit et plis, des plis ivris par plis, des branches si pis si plis, firi firi, il lit, car rond ton sampiri, tutu en voûte, il lion tipiri, lion signol rémi. Si illicite lyrie, inique Isis s'y plie. Son ton est rond en chant, un voûte emplit la nuit. Tiu-tiu et glou, soupoutiu glou, glou soupoutoulou.
Je vous invite à suivre cette arabesque blanche peinte au sol et qui tente d'organiser l'espace. Cette courbe, tel un fil d'Ariane, pour suivre le dédale de nos pensées dans ce labyrinthe sonore. Elle vient de la ville et s'arrête subitement là, au milieu de la place. Hésitant entre prendre le chemin de droite, en contrebas du cheval au casque d'or de l'artiste Mimmo Palladino, gardien du musée, dieu psychopompe, escortant les âmes des défunts dans un autre monde. Mais nous pouvons aussi continuer tout droit, puis légèrement à gauche, et franchir la porte du barrage Vauban pour quitter cette rive, traverser les eaux tumultueuses du Styx et arriver sur les berges du quartier blanc. Approchons-nous de cette intrigante bouche qui avale un flux incessant de passants. Ils s'engouffrent tous dans un œsophage en pierre long de 75 mètres, traversant les entrailles de cette fortification. Nous voici sur le pas de la porte du passage Georges Frankhauser. Pas pressé, pas perdu, pas à pas de loup ou pas compté. Faire le premier pas en évitant les pas cadencés ou le pas de loi. Petit ou grand pas, il n'y a pas de faux pas. Faire les 100 pas, c'est aller jusqu'au bout du couloir, c'est franchir 3 ponts-levis, longer 18 niches aux allures de cachots ou de cimetières capitulaires. Les bruits de nos pas, sages ou imprudents, se réverbèrent sur les murs de grès et les voûtes en tôle ondulée de ce purgatoire. Aventurons-nous doucement dans la fraîcheur de ce tunnel.
Thank you.
arrêtons-nous là, où la pierre qui se dérobe fait place à un rudimentaire plancher. Sous nos pieds, l'eau fuit vers la ville, mais elle pouvait être stoppée jadis par les vannes de ce barrage pour inonder les terres en amont et rendre ainsi la ville imprenable, transformer la cité en une île invulnérable. Ces engrenages figés par la rouille, ces inquiétantes chaînes qui ornent les parois, nous offrent un troublant voyage dans le temps. Poursuivons notre marche jusqu'à franchir la deuxième section de plancher qui fait généreusement résonner nos pas. Nous arrivons presque au terme de notre traversée. Fenêtres cintrées qui percent les alcôves du côté gauche du passage mettent au jour un musée improbable de gargouilles infirmes, de gueules cassées, de chérubins poussiéreux, de chevaliers décapités, de divinités fatiguées. Toute une mythologie en pierre et en stuc usée par le temps, provenant de la cathédrale et d'autres monuments de Strasbourg, est incarcérée ici, derrière ces barreaux. Des personnages d'un bestiaire médiéval, entreposés là, comme par hasard, sont donnés en pâture à des passants qui, bien souvent, ne prennent pas le temps d'écouter leur histoire. L'oiseau traîne-t-elle après soi? Eh bien, voyageurs, vos oreilles sont-elles prêtes? Pour qui sont ces oiseaux qui sifflent sur vos têtes? Entendez-vous cette rumeur provenant de la place du Quartier Blanc? Oublions la possibilité d'une vue panoramique au bout de l'escalier qui monte à notre droite avant la sortie. Poursuivons cette mystérieuse rumeur. Passons de l'ombre à la lumière. Ce vaisseau noir qui se dresse devant nous, aux lignes horizontales de verre et de fer, délimite les pourtours de la place du Quartier Blanc. Ce bateau est à quai depuis 1989. Ancré sur le terrain qu'occupait auparavant la caserne de gendarmerie Barbade, ce bâtiment aux courbes audacieuses, imaginé par l'architecte alsacien Claude Vasconi, héberge le conseil départemental du Bas-Rhin. Ce navire épouse en partie le tracé des remparts du XVIe siècle. Quelques arbres courageux, à l'étroit dans leurs plates-bandes, portent timidement ombrage à cette place dont la nudité minérale favorise les vents de l'hiver et les chaleurs de l'été. Ici encore, sur le tronc du premier arbre à gauche, est fixé un signe cabalistique du club vosgien, semblable à celui rencontré au début de notre voyage. Cette fois-ci, le losange n'est pas bleu, mais rouge. Rouge comme une pivoine, rouge comme une urgence de bouger, de poursuivre cette rumeur, de répondre à l'appel du large. Le même signe, accompagné d'une flèche, est collé sur un poteau à droite de l'entrée du barrage Vauban. Il nous invite à prendre la direction de gauche. Ces bruits étranges semblent venir de là. Un quai promettant de nous emmener sur l'île de Malte se dessine derrière l'embrasure d'une porte taillée dans un vestige de rempart à gauche du barrage. Deux losanges rouges qui marquent deux poteaux verticaux d'un garde-fou nous confirment la direction. Les bruits se rapprochent. Franchissons le seuil. Planté à droite sur la lande de terre qui nous sépare de la rivière, indique « Zone refuge pour oiseaux d'eau ». Un havre de paix pour la gente ailée, coincée entre murs et cours d'eau, où la ville est censée s'arrêter de pousser, où la nature est censée reprendre ses droits. Star des oiseaux libres comme l'air, contentons-nous de cet espace exigu et incongru pour imaginer de larges horizons. Utilisons ce minuscule interstice naturel dans la ville pour échapper à notre réalité géographique. Poussons les murs jusqu'aux confins de notre imagination. Convoquons Hermès, gardien des routes et dieu des voyageurs. Ouvrons les rideaux sur le théâtre du monde et des hommes. Cette rivière devient alors mer infinie, ce quai que je vous propose de descendre en suivant la rambarde nous mène sans doute aux lisières d'un rêve. Le chemin bifurque à gauche pour remonter le courant. Restons ici, si vous le voulez bien, au bord de l'eau. en souriant sous la caméra de vidéosurveillance placée juste au-dessus de nos têtes. Ne sommes-nous pas d'ailleurs contents d'être là, rescapés d'un heureux naufrage dans notre imaginaire? Ce quai de Malte nous a portés jusqu'au rivage de cette île méditerranéenne. Une utopie pour beaucoup de naufragés venus d'Afrique. Un lieu de nulle part, ou peut-être uniquement dans les rêves les plus audacieux. Restons à quai sans nous lasser du spectacle de l'eau qui passe à nos pieds, charriant des bois flottés qui viennent s'accumuler contre les jetées d'un port. Le paquebot amarré en face de nous, avec son immense hublot, son élégante tête de proue, ses six cheminées d'où peuvent s'échapper d'un moment à l'autre d'épaisses fumées, semble en partance. Du continent d'où je viens, je me souviens d'un égaré poétique fuyant un monde rationnel. Un observateur inouï et acharné de la nature qui avait laissé au vu et au su de toutes nos envies d'évasion sa trousse du naufragé, ses sculptures, ses collages, ses poèmes, et particulièrement ceux écrits pour l'être aimée, morte prématurément.
Quel était ton rêve lorsque tu quittas cette rive? Rêvais-tu d'un radeau d'étoiles à la dérive? Rêvais-tu d'un abîme de candeur? Tu écartais les sphères intransigeantes pour cueillir une fleur. Tu résonnais d'un monde de clarté. Des papillons représentent une scène de ta vie où l'aurore s'éveille sur tes lèvres. Une étoile se forme selon ton dessin. Le rideau du jour tombe sur les rêves. Tu es une étoile qui se transforme en fleur. La lumière se glisse sous tes pieds. Des ailes rayonnantes t'entourent comme une haie. La fleur se berce sur ses ailes. Elle porte un joyau de rosée. Elle rêve d'une larme de finesse. Ses baisers sont des perles. Elle disparaît. Elle disparaît dans sa propre lumière. Elle disparaît. Elle disparaît dans sa pureté et sa douceur. Tu rêvais sur le doigt du ciel, parmi les derniers flocons de nuit. La terre se couvrait de larmes de joie, le jour se réveillait dans une main de cristal.
Le texte du guide, la mise en son et le montage sont de Philippe Aubry. Les poèmes et textes de Hans-Jean Harpe, lus par Jean-Yves André, sont tirés du livre « Jours effeuillés », édition NRF Gallimard. Cette promenade sonore a été produite par la compagnie Le Bruit que ça coûte.